Et bonsoir à tous. J'ai eu beaucoup de mal à préparer ce soir. Je cherchais, je travaillais, je passais du temps. Et puis, c'est comme si Dieu voulait dire quelque chose de très simple. Et il voulait le dire en profondeur. Et donc, je vous invite à écouter avec un cœur d'enfant ce soir ce partage. Et à simplement laisser cette parole descendre en profondeur dans votre terre. Et qui est vraiment avoir peu, mais avoir bien. Et que ça descende là où les choses basculent. Vous savez, on peut entendre plein de choses, ça reste à un certain niveau du cerveau, ça ne descend pas, et du coup, ça ne bascule pas dans le cœur. Ça ne change pas vraiment les choses dans la vie. Et c'est un peu ça le défi que je voudrais vous faire ce soir, c'est recevez cette parole, je crois, simple, mais que ça bascule quelque chose en vous. Alors je me suis fait un petit constat, une petite remarque, j'ai réalisé quelque chose en fait de tout simple, de tout bête, c'est que quand on parle du ciel ouvert, nous sommes sur la série Ciel ouvert et on arrive bientôt d'ailleurs à la fin de cette série, on a dit beaucoup de choses sur le ciel ouvert, mais en fait le ciel ouvert au départ est tout simplement c'est une question de pluie. Et je réfléchissais à ça l'autre jour et je me disais, mais c'est vrai que finalement, on a tendance à spiritualiser les choses et il y a un sens spirituel, donc c'est juste de le faire. Mais il y a aussi un sens plus premier, plus simple, c'est de l'eau. Le ciel ouvert parle de l'eau. Quand Dieu dit je fermerai le ciel, il dit simplement bah, je vais empêcher les nuages de pleuvoir. N'y aura pas de pluie. Il y a quelques années, quand on n'avait pas encore d'enfants, c'est très prenant les enfants, c'est passionnant, mais c'est une consécration, c'est un sacerdoce. Avec mon épouse, nous aimions beaucoup, beaucoup faire de la montagne, la randonnée, en mode vraiment investi, c'est-à-dire partir plusieurs jours dans la montagne et puis quitter la civilisation. On retourne à la nature, on a une tente, on a un sac à dos avec tout ce qu'il faut dedans pour survivre. Et franchement, ça, moi, j'aimais. J'aimais énormément. J'aime toujours, d'ailleurs. Ça fait des années que je ne l'ai plus fait, mais... Et ce que je trouvais très intéressant dans ces randonnées de plusieurs jours, la plus grande durée qu'on a faite, c'est 15 jours en immersion. Ce que je trouvais très, très puissant, c'est de redécouvrir la simplicité de la vie. De redécouvrir simplement d'avoir toute sa vie dans son sac à dos, et puis ça suffit. Et en particulier, de redécouvrir le goût de l'eau. Et je trouvais ça assez fantastique, parce que on a tellement tout ce qu'on veut ici, que finalement l'eau devient quelque chose de bas de gamme, quelque chose de pas très intéressant finalement, parce qu'on ouvre le robinet et puis on a l'eau. Et en montagne, en fait, il se passe tout à fait autre chose. C'est que l'eau devient primordial. Déjà, il y a l'effort sous le soleil. On transpire beaucoup, on perd beaucoup d'eau. Et si jamais on n'arrive pas à recharger l'eau, ça compromet toute la randonnée. En fait, l'eau, ça devient un moment stratégique. Et puis, on redécouvre aussi dans la soif, dans l'effort, que finalement, il n'y a rien de meilleur que l'eau. Quand on a absolument soif et qu'on n'a pas trop d'eau, donc il faut la gérer, il y a la bouche qui devient pâteuse. Il y a cette sensation de soif qui commence à se réveiller. Et là, en fait, je vous assure que même le meilleur des vins, même si on aime le vin, ou le meilleur des Coca-Cola, ou etc., tous la boisson préférée que vous avez, eh bien, ne pourra pas rivaliser avec l'eau à ce moment-là. On redécouvre le goût de l'eau. On redécouvre aussi le parfum de l'eau, l'odeur de la pluie. Et cette pluie qui tombe, et puis après, il y a le lendemain, toutes les senteurs, tous les parfums de la nature arrosée qui remontent. Et moi, j'aime en fait ces moments de randonnée parce que j'ai l'impression de revenir aux essentiels. Et dans une vie, on a tellement de superflu, une vie, on a tellement tout, 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 de revenir finalement à la base. Savez, dans la Bible, en Israël, là où Jésus vivait, l'eau, c'était pas quelque chose de banal. l'eau, c'était une question de vie ou de mort. L'eau, dans ces pays-là, c'est stratégique. Il y a des puits, il y a des fleuves, ils sont même bien mentionnés dans la Bible. Et l'eau, en fait, c'est comme une promesse dans ces pays-là, à cette époque-là. L'eau, c'est la vie. Et elle représente, dans la Bible, la récolte, le fruit et la bénédiction. Alors, vous avez compris que ce soir, c'est d'eau que je veux vous parler. Et cette image très simple d'un ciel ouvert, d'une pluie qui descend et d'une eau qui vient en nous profondément. Ce message, il a commencé à me travailler il y a quelques semaines. Je méditais dans Apocalypse. Et à la fin d'Apocalypse, il y a Jésus qui conclut « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Et encore un peu plus loin, vraiment dans les toutes dernières paroles de Jésus, « Que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Et je me faisais cette réflexion, je me laissais interpeller par le texte. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et pour tout auteur, les premières et les dernières phrases qu'il va dire, qu'il va écrire, il va prendre un soin particulier. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'important dans cette répétition sur « Venez boire ». Tout est accompli, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, venez boire. Je crois qu'il y a là quelque chose d'important. Il y a une belle image à la fin dans Apocalypse qui dit « Il y a un fleuve d'eau, d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sort du trône de Dieu. Et puis, au milieu, il y a une place, et puis ce fleuve, il traverse la place, cette ville. Et puis, il y a plein d'arbres tout au bord du fleuve. Et puis, ces arbres donnent chacun du fruit, et les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. » Donc, il y a toute une symbolique avec l'eau, et il y a comme une eau en abondance à la fin de la Bible, dans les dernières lignes, dans le dernier chapitre de notre Bible. Et quand je méditais ça, je me suis mis à lire un autre verset en parallèle, qui est ce fameux Jean 7, 37. C'est Jésus qui, le dernier jour d'une grande fête, il se met debout et il s'écrie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Le texte continue, il dit cela de l'esprit qu'allaient recevoir tous ceux qui croiraient en lui. Et la combinaison des deux, ces versets en Apocalypse et puis cet événement dans la vie de Jésus qui se met debout et qui crie. C'est pas juste qu'il enseigne comme ça, qu'il dit quelque chose puis ça frappe les gens. Il se met debout, peut-être il monte sur la table, il monte sur quelque chose et il se met à crier. C'est bien qu'il y a là quelque chose d'important. Et je crois que dans cet appel de Jésus à venir à lui et à boire, il y a quelque chose pour nous ce soir. Il y a quelque chose pour nous qui avons fait cette série « Ouvrir le ciel ». Il y a quelque chose qui parle de cette pluie de Dieu, de cette pluie de bénédiction, de cette pluie de vie. Et si Jésus prend tant de peine à nous le rappeler et à insister, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à capter dans cet appel. Et moi, j'aime me laisser surprendre par Dieu. On a beau être chrétien, moi je ne sais plus combien de temps ça fait que je suis chrétien, peut-être... Je ne vais pas vous dire si vous allez savoir mon âge. On a beau savoir plein de choses, c'est bon d'être surpris par Dieu, de réaliser d'un coup, de se réveiller, de dire « Ah mais oui, c'est vrai, pour Dieu, ça c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et de toujours aller chercher quelque chose qu'on n'avait pas encore vraiment pleinement réalisé. L'eau, dans l'histoire de la Bible, j'ai pris deux points, deux épisodes, et je vais vous les partager courtement, apparaît à des endroits stratégiques. Et le premier, c'est quand Dieu a libéré son peuple d'Égypte, il quitte l'esclavage, il sort de l'Égypte, et puis ils traversent le désert en route pour le pays promis, là où découlent le lait et le miel, le pays de Canaan. Et dans ce désert, il n'y a pas d'eau. Et dans ce désert, il est dit, Deutéronome 8, « Dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans ces lieux arides et sans eau, il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. » Et on voit apparaître un truc complètement bizarre, c'est ce qui est appelé le rocher d'Horeb. Un rocher apparemment très très dur, et de là se met à jaillir de l'eau pour le peuple qui traverse le désert. On pourrait dire que c'est vraiment une eau qui tombe du ciel, ou une eau miraculeuse, parce que de l'eau qui jaillit d'un rocher, c'est quelque chose qui ne se passe pas, normalement. Et le Nouveau Testament explique à travers Paul, dans 1 Corinthiens, que ce rocher d'Horeb, en fait, était une préfiguration, une annonce, était Jésus-Christ, de qui l'eau allait jaillir. Et dans le désert, l'eau, ça signifie la vie. L'eau, ça signifie la survie. Et c'est ce que Jésus-Christ est et veut être pour chacun d'entre nous. La vie et la survie. Deuxième histoire, c'est une vision grandiose d'un prophète qui s'appelle Ézéchiel, c'est en Ézéchiel 47. Et ce que j'aime bien, moi, dans la Bible, c'est que les passages, donc celui-là, le passage Jean 7, 37, fait en fait écho. Il entre en résonance avec cette vision qu'on trouve en Ézéchiel 47. Et dans cette vision, eh bien, le prophète Ézéchiel voit le temple, un temple de Dieu, et de ce temple coule un fleuve, et ce fleuve va dans la région autour, et c'est dit à plein d'endroits, il amène la vie. À un moment, il va même dans la mer morte, il y a plein de poissons qui sont morts, il amène la vie, il déverse un flot de vie. L'eau amène la vie. Et de ces deux histoires, je veux tirer ce simple égalité que l'eau, c'est la vie. C'est la vie pour nous qui sommes parfois dans des déserts, et on voit là une fidélité de Dieu qui sait faire jaillir un rocher pour nous accompagner dans nos déserts. Et puis c'est aussi une eau qui jaillit du temple. Et nous sommes un temple. En Jésus-Christ, nous sommes un temple. Et il y a une eau qui jaillit de nous et qui amène la vie autour de nous. Et je vois là deux points. Premier point, j'ai besoin d'eau pour vivre. J'ai absolument besoin de cette eau dont parle Jésus pour ma vie, pour vivre pleinement. Et deuxième point, les autres autour de moi, les autres qui dépendent de moi, ma famille, mon épouse, mon couple, mes voisins, mes amis, mes frères et sœurs dans l'église, mes collègues au travail, ont besoin de l'eau que je porte. Deux dimensions. Et ce qui me frappe, et c'est simplement ça en fait que je veux laisser ce soir, c'est que Jésus insiste, Jésus nous demande, viens boire. Et on pourrait se dire, après tant d'années de vie chrétienne, mais j'ai bu, c'est bon, je sais, je connais ces versets. Je connais l'histoire, donne-moi autre chose, donne-moi quelque chose de meilleur. Je ne suis pas à ce niveau-là. Et je crois que quand on est comme ça, dans cette attitude-là, on passe à côté de quelque chose de puissant. Parce qu'il y a tant d'insistance, il y a tant d'éléments posés tout au long de la révélation biblique qu'on ne peut pas dire « j'ai vécu entièrement ce que Jésus est en train de dire là ». Il y a plus, il y a beaucoup plus. On peut être chrétien, on peut être sauvé et on peut être mort. Jésus dit en Apocalypse à une des églises, vous savez au début il écrit aux églises, il dit tu as la renommée, tu as la réputation d'être vivant, mais en fait tu es mort. On a besoin de vie et on se contente de si peu de vie. Et c'est ça qui me frappait en fait dans ma méditation, c'est de réaliser que je me contente et que je peux être si souvent satisfait de ce que j'ai. Je me dis, oui, je suis quand même pas mal. En plus, je suis pasteur, donc forcément, c'est pas mal. Je connais la Bible, je lis tous les jours, je prie tous les jours, etc., etc. Et je me sens repu. Et je n'ai plus soif. Ou si peu soif. Et là, il y a quelque chose qui commence à teinter dans mon cœur. C'est comme si Dieu me disait, il y a beaucoup plus et tu passes à côté. Boire l'eau de la vie, boire cette eau dont Jésus parle. Comment boire ? C'est quoi mon vrai besoin ? C'est quoi notre vrai besoin, en fait ? Je me rappelle d'un été, là encore il y a longtemps, j'avais eu une année éprouvante et j'étais profondément, profondément fatigué. Mais à tel point qu'on ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver des forces. J'étais en montagne, encore une fois, c'est vraiment un lieu qui m'inspire. Et puis, je me faisais une liste, ah, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de plus travailler. Je me faisais une liste pour essayer de répondre à ce que je ressentais. Et puis, à un moment, j'ai compris, et c'est vraiment venu comme quelque chose, comme une révélation, comme quelque chose d'évident, de très clair pour moi, qu'en fait, ce n'est pas tant de cela que j'avais besoin, mais j'avais un besoin en amont, c'était Dieu. Et des fois, il y a des choses tellement simples qu'on passe à côté. J'étais chrétien à l'époque, je connaissais plein de choses déjà, j'ai sûrement commencé mes études en théologie, je connaissais plein de choses. Mais l'évidence ne m'était pas venue au premier abord. J'ai besoin de Dieu. Un peu plus tard, j'ai compris qu'il y a une différence entre se reposer et être renouvelé. J'avais besoin à ce moment-là d'être renouvelé. Il n'y a qu'une seule chose qui renouvelle profondément, véritablement, c'est Dieu. Quand je suis renouvelé, je peux me reposer. Et on peut être fatigué et en même temps être renouvelé. Mais si je ne suis pas renouvelé, je ne peux pas me reposer. Le repos ne marche pas. Le repos ne satisfait pas le besoin premier qui est être renouvelé. Boire. Dieu. David, le roi David, était un homme qui a percé des mystères de Dieu. Tellement son cœur était proche de Dieu, il a reçu vraiment des révélations très puissantes, très profondes de l'être humain. Quand on lit les psaumes, on peut lire sa vie. Quand on lit les psaumes, c'est intemporel. Ça parle à toutes les générations d'êtres humains. Et il y a le cœur de David qui se déverse dans les psaumes. Et j'aime, c'est le psaume 42, le verset 3. C'est vraiment un verset qui résonne en moi très fort, où David dit « Mon âme a soif de Dieu ». Du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu. Alors, c'est dit tellement simplement, c'est comme une musique, une chanson, un poème. Donc, on pourrait lire et puis pas s'arrêter. Mais si on s'arrête, il a soif de Dieu. Il n'a pas soif de lire la Bible, il n'a pas soif de temps de louange, il n'a pas soif d'onction, il a soif de Dieu. Et il précise même du Dieu vivant. Parce que David avait compris, David expérimentait que la vie dont il avait besoin, la vie qui le renouvelle profondément et véritablement, c'était Dieu. C'était la personne même de Dieu. Ma vie, ta vie, se trouve en Dieu. Pas dans les aliments, pas dans une boisson, pas dans un couple et un mariage heureux, pas dans un travail qui t'épanouit. Ta vie se trouve en Dieu. C'est pas pour rien que Dieu dit, prétend être celui qui est. C'est son nom, Yahweh. Celui qui est. Il a l'être en lui-même. Et quand je suis avec lui, C'est son être qui vient nourrir mon être. Il dit ailleurs, je suis la vie. Et quand je suis dans sa présence, sa vie vient dans ma vie. En fait, c'est des choses que Dieu a en lui. L'amour, la paix, la sécurité, la joie, la force, toutes ces choses-là sont en lui, lui appartiennent dans un sens. Et c'est seulement quand je viens dans sa présence, quand je rentre en contact avec lui, que ces choses-là viennent en moi. Et ça, ça me renouvelle. Finalement, lire sa Bible, venir à l'église, prier, ça n'apporte pas la vie en soi. On peut très bien faire toutes ces choses-là, les faire très bien, et ne pas recevoir la vie. Tu peux très bien lire ta Bible et ne pas rencontrer Dieu. Tu peux très bien prier des heures et ne pas entendre sa voix. On peut passer à côté. Un souvenir très puissant dans ma vie, c'était avec une de mes filles, Amraï, je crois qu'elle est là ce soir. Elle était toute petite. C'était une journée, fin de journée. Alors moi, j'étais un papa à la maison, donc je m'occupais de mes enfants. Fin de journée, Amraï fatiguée, et elle se met à pleurer. Vous savez, ces pleurs qui réveillent un papa, qui réveillent un père, c'est les pleurs un peu déchirants là. Puis moi, je suis assez papa poule dans l'âme, et du coup, je viens vers elle et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Et puis elle pleurait. Elle n'arrivait pas à me dire ce qu'elle avait. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as besoin de qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et ça a continué comme ça un bon moment. Et puis, à un moment, elle m'a sorti cette phrase qui restera gravée dans ma tête, je crois, toute ma vie. Papa, je veux toi. C'était une phrase un peu fusionnelle, vous voyez? Cette phrase qui, tiens, c'est comme une décharge électrique, là. Papa, je veux toi. Elle voulait pas quelque chose de moi. Elle voulait pas que je lui donne à boire, que je lui donne. Elle voulait moi. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tout arrêté et je l'ai prise dans mes bras et je l'ai serrée dans mes bras parce qu'elle voulait moi. Et je crois que c'est ça que Dieu veut avec nous. Il veut nous. Il veut être avec nous. Il veut simplement nous prendre dans ses bras. Et il veut ce contact, cette rencontre avec nous. Des fois, peut-être, il ne veut pas nos prières. Il ne veut pas qu'on lui parle. Vous savez, on débite les listes de courses, nos commandes à Dieu. C'est pas qu'il n'aime pas ça, c'est pas qu'il rejette ça. Il est tellement amour qu'il entend nos prières, il les exauce, il les recueille. Mais je crois que par moments, ce qu'il veut simplement, c'est nous. C'est être avec nous et que nous cherchions à être avec lui, simplement. C'est-à-dire chercher à rencontrer Dieu, chercher le face-à-face, chercher à le toucher, chercher ce contact avec Dieu. Et quand on le vit, quand on l'a vécu, il y a comme une frustration de ne pas le vivre. Quand on a goûté à cela, il y a une frustration qui est là quand on n'a pas le temps. Moi, il n'y a rien de pire que de commencer une journée et de ne pas avoir senti ces petites choses. Alors bien sûr, nos journées ne sont pas les mêmes. Il y a des moments où il y a le ciel qui s'ouvre et puis on reçoit, et puis il y a d'autres moments où c'est plus plat. Ça, c'est la vie, c'est l'humanité, on est tous pareils. Mais ce que je veux dire, c'est cherchons, persévérons et ne cherchons ce contact avec Dieu, de toucher sa personne, d'entendre sa voix, de sentir son amour. Cherchons ça. Ne renonçons pas à chercher cela. On peut très vite, en tant que chrétien, nous laisser juste emporter par l'habitude. Et puis les choses deviennent moins passionnées, moins passionnantes. Les choses deviennent plus ternes. Et c'est comme si on s'endort, comme si on s'assoupit, comme si quelque chose en nous n'est plus éveillé, n'est plus amoureux comme au premier temps avec Dieu. Et ce que Dieu nous dit ce soir, c'est réveille-toi, c'est veille sur cette flamme-là, c'est cherche-moi. Ne cherche pas les choses de moi, ne cherche pas les choses que je peux faire pour ta vie, même si c'est bon de chercher ça, il n'y a pas de mal à chercher ça. Mais cherche-moi, mon être, plutôt que mon faire, ce que je suis, cherche-le en premier. Et si je suis honnête, j'ai besoin de me le rappeler. Et dans ce passage, ce verset, Jésus dit « Venez à moi, vous tous, venez et buvez. » Jésus dit « Venez à moi. » C'est-à-dire que quand on vient en Jésus, quand on vient devant Jésus, quand on se présente à Jésus, eh bien, il y a comme une rencontre qui se fait, mais derrière Jésus, il y a un Père. Il y a Dieu le Père qui se révèle, et derrière Jésus, il y a le Saint-Esprit qui vient dans cette présence et qui nous parle. Et quand on vient à Dieu, quand on vient à Jésus, c'est comme une porte qui s'ouvre sur la Trinité, sur ce Dieu qui est trois personnes. Quand on cherche la présence de Dieu, on le rencontre dans chacune de ces trois personnes. Et vous savez que quand on cherche cela tous les jours, quand on cherche à toucher Dieu et à vraiment le rencontrer et à l'entendre, il y a des fruits à cela. Il y a des fruits qui viennent, qui ne sont pas là quand on vit juste une habitude, où on ne rencontre plus, on ne vit plus les choses avec Dieu. Et ces fruits-là, c'est déjà ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a son amour, sa force, sa sagesse, sa paix, sa sécurité, il y a tout ce qui est en Dieu, tous ces attributs en fait, qui viennent en nous et qui nous rechargent et qui nous renouvellent. Une deuxième chose qui arrive, un des fruits de cela, c'est 1 Jean 1.1. C'est l'apôtre Jean qui dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et là, il parle de Jésus, en fait, et du fait que lui, en tant que disciple, a vécu avec Jésus. Nous en rendons témoignage. Et je suis toujours interpellé par ce passage, ce verset. Parce que là, il décrit un temps avec Jésus, une rencontre avec Jésus, physique. Je l'ai vu de mes yeux, je l'ai contemplé, mes mains l'ont touché, et c'était la parole de vie. Mais je crois que nous pouvons vivre cela dans une certaine manière, en esprit. Nous pouvons vivre cela. En esprit même, je crois que c'est bon de chercher cela. Ce n'est pas une expérience mystique, ce n'est pas pour ceux qui sont très très loin dans l'espace. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'en esprit, nous pouvons vivre. C'est un des apôtres qui disait, mais Jésus, nous ne le connaissons plus comme avant, dans la chair. Nous le connaissons d'une nouvelle manière. Et nous pouvons rencontrer Jésus d'une manière qui nous touche profondément. Et peut-être nous exprimer avec ces mots-là. Quand on passe un temps avec Dieu et qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une rencontre qui se crée, il y a quelque chose qui s'éveille en nous et puis on entend Dieu nous parler, à partir de là, on peut contempler Dieu. À partir de là, on peut voir des choses qu'on n'avait pas captées avant. À partir de là, il y a des mots pour décrire une expérience que nous vivons. Et nous pouvons dire, tu es vraiment celui qui m'aime. Tu es vraiment celui qui m'amène la paix. Tu es vraiment celui qui m'ouvre les yeux, qui me donne de comprendre plein de choses. Et un fruit de cela, c'est que notre témoignage devient beaucoup plus puissant quand on vit des rencontres avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on connaît les choses sur Dieu qu'on peut témoigner avec force, mais c'est parce qu'on les a expérimentées, parce qu'on les a vécues et qu'elles nous ont touchées, remuées. Et puis, quand on a ce moment de rencontre avec Jésus, eh bien, les paroles qu'on peut lire dans la Bible deviennent ses paroles, deviennent des paroles de vie, deviennent sa voix. qu'on entend. Et ça, c'est quelque chose de miraculeux qui se passe dans sa présence. C'est qu'il y a une voix dans notre cœur qui se met à monter parce que nous sommes dans sa présence. Vous savez, lire la Bible peut très bien n'avoir aucun effet, juste enrichir nos connaissances, augmenter notre savoir, et c'est tout. Mais quand nous rencontrons Jésus-Christ, et à travers lui, Dieu le Père, et que nous entendons la voix du Saint-Esprit, quand il y a ce moment de contact, de rencontre authentique avec Dieu, alors la lecture de la Bible devient cette voix. Et que fait cette voix ? En Genèse, on voit que cette voix est une parole créatrice. Elle amène des choses nouvelles en nous. Elle crée des choses en nous. Elle fait jaillir des choses qui n'existaient pas dans notre cœur. Simplement sa parole. Elle amène avec puissance des réalités en nous. C'est comme un ensemencement, comme des graines que Dieu sème à travers la Bible, à travers sa parole, parce que nous avons cherché Dieu et que nous l'avons rencontré. Ce que je veux dire ce soir, c'est que on connaît plein de choses en tant que chrétien, mais on a besoin de vivre beaucoup de choses. On a besoin de chercher à expérimenter des choses qu'on connaît, qui sont là devant nous, mais qu'on n'a pas encore assez pris. Et quand Jésus nous dit « Viens boire », je t'en supplie, viens boire. Tu as soif, c'est ton besoin, tu ne le sais pas. Peut-être on est comme des personnes âgées, vous savez, qui ont plus soif. Elles ont besoin d'eau, mais elles ne le savent pas. Elles ne le ressentent plus. Et nous sommes à bien des égards comme cela. Tu as soif, te dit Dieu. Et j'ai ouvert une fontaine de vie pour toi. J'ai ouvert dans le ciel. J'ai ouvert une fontaine d'eau, un accès, et c'est gratuit. Viens boire. Cherche-moi. Viens boire cette eau de la vie pour que toi-même tu redeviennes vivant là où tu es mort et pour que toi-même tu deviennes une fontaine de vie pour les autres qui t'entourent. Mais viens boire. Ne te contente pas de ce que tu as. Viens boire. C'est un besoin profond. Bruno, à l'école Destinée, il y a quelques mois, parlait d'une loi spirituelle. Pour notre corps physique, plus on mange, et moins on a faim. Et plus on boit, et moins on a soif. Jusque-là, tout va bien. Mais dans l'esprit, dans notre esprit, c'est pas pareil. Et c'est là la loi spirituelle. Dans notre esprit, plus tu manges, plus tu as faim. Et plus tu bois, plus tu as soif. En fait, quand tu te mets à boire, quand tu te mets à manger pour ton esprit, il y a quelque chose qui s'amorce, il y a quelque chose qui se réveille, il y a quelque chose qui se met en action et qui demande toujours plus et plus et plus. Et c'est ça, je crois, le défi que Dieu nous pose ce soir. Dieu connaît nos cœurs, il sait où on en est. Et il nous encourage d'aller plus haut, d'aller plus loin. Où que tu en sois, Dieu te demandera toujours de monter. Active la soif en toi. Viens boire. Active la faim en toi. Et ce verset, Jean 7, 37, termine avec une ouverture assez phénoménale. C'est que Jésus nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et ça aurait pu s'arrêter là. Mais Dieu a toujours des plans beaucoup plus grands, beaucoup plus puissants qui nous dépassent. Et il dit, juste après, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et il dit cela de la vie de l'Esprit qui coule à travers ceux qui croient. Et vous remarquez qu'il y a même un pluriel, « des fleuves ». Ça veut dire que dans ces moments où nous buvons de l'eau, dans l'intimité de notre rencontre avec Jésus-Christ, ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a des fleuves d'eau vive qui se mettent à couler de notre sein pour tous ceux qui sont dans notre sphère d'autorité. Juste parce que nous buvons un verre d'eau. Nous buvons à la source avec Jésus. Il y a des conséquences incalculables, disproportionnées, extravagantes, divines. Un simple acte qui se fait dans le lieu secret, qui se fait dans ces moments tout simples, mais vrais, authentiques, entre toi et Dieu. Et je crois que c'est là exactement où Dieu nous attend, en tant qu'Église. On a eu ces messages sur le ciel ouvert. Et c'était inspiré de Dieu, c'était vraiment voulu par Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qui a changé depuis dans ma vie ? Et je crois que ce que Dieu nous demande, c'est cherche plus. C'est va plus loin. Et j'étais interpellé par ce petit mot dans l'Apocalypse, venez boire, c'est gratuit. Le côté gratuit, c'est souligné deux fois, c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit ? D'abord, pour montrer que c'est une grâce. Il n'y a aucun mérite. Ce n'est pas basé sur nos efforts, sur nos mérites devant Dieu, sur notre sainteté. C'est uniquement basé sur son amour à lui, sa volonté. Mais ça montre aussi que nous pouvons. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de quelque chose, d'une capacité pour obtenir cette eau. Nous pouvons vivre cela. Parfois, on ne le vit pas parce que simplement on se dit « mais c'est pour les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu, c'est pour ceux qui sont loin ». C'est pour les Américains, c'est pour on ne sait pas quoi. Ce n'est pas pour moi. Mais Jésus a tout mis en place pour que ce soit gratuit pour toi. Et derrière ce « c'est gratuit », il nous dit aussi « je le veux ». Je le veux absolument dans ta vie. Je le veux absolument. Alors il y a un appel pour nous ce soir. C'est d'aspirer à cette vie. Et peut-être que vous êtes là et je vous demande de faire un constat honnête, simplement dans votre cœur. Il n'y a pas de jugement. Dieu n'est pas là pour juger et pour distribuer des bons points et des mauvais points. Dieu est là pour nous faire grandir. Dieu est là pour que nous buvions la vie et que nous ayons la vie en abondance. Et je voudrais simplement vous inviter à faire un constat ce soir. Est-ce que le ciel est ouvert dans votre vie ? Est-ce que depuis le début de cette série, le ciel s'est ouvert davantage en vous ? Est-ce que vous voulez plus ? Est-ce que vous voulez cette eau du ciel qui amène une vie puissante ? Est-ce que vous voulez ces torrents de vie à travers vous ? Quelque chose que vous ne maîtrisez pas, qui dépasse votre compétence, qui dépasse même vos rêves, mais que Dieu veut mettre parce que vous buvez son eau. Est-ce que vous voulez cela ? Est-ce que nous voulons cela ? J'ai cette conviction dans mon cœur en m'impliquant à Clé depuis quelques années maintenant qu'il y a quelque chose de grand qui est devant nous. Il y a quelque chose de grand dans lequel nous sommes déjà entrés et que nous avançons. Et ce quelque chose de grand va demander des hommes et des femmes assoiffés de Dieu, des hommes et des femmes qui savent boire à la source et qui n'ont fait que soif, qui ont soif et soif de plus et de plus. Et je crois que c'est quelque chose qui va être comme un basculement à partir du moment où nous allons boire, où nous allons chercher Dieu, où nous allons vivre, où nous allons chercher cette expérience avec Dieu. Et je crois que en priant tout à l'heure dans la petite salle, je comprenais que le Saint-Esprit, il veut venir réveiller nos vies. Il veut amener cette vie en nous et qu'il y a un enfant de Dieu en nous qui crie « Abba, Père ». On connaît ces choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui crie « Abba, Père » ? L'enfant de Dieu en nous a besoin de recevoir une vie d'en haut, une vie qui ne se trouve pas sur la terre, qui ne se trouve pas dans nos moyens de repos, qui est contenue dans cette eau que donne Jésus en face à face et en cœur à cœur. Une vie puissante qui vient réveiller l'enfant de Dieu en nous, qui vient le rendre passionné et nous faire crier ensemble « Abba, Père ». Abba Père, quelque chose qui vient faire trembler les murs, quelque chose qui vient faire trembler le sol, quelque chose qui vient faire trembler Montpellier, qui vient faire trembler les dominations sataniques. Parce que le Saint-Esprit est là et qui réveille l'enfant de Dieu en nous. et que c'est un enfant vivant et qui distribue la vie, qui se lève. Alors je vais terminer là et je voudrais vraiment vous inviter à prendre du temps avec Jésus cette semaine, à vous poser devant lui, à le chercher lui et à le rencontrer lui et à lui demander, Seigneur, touche ma soif, je veux avoir soif de toi, je veux boire ton eau, donne-moi soif. Et je voudrais m'adresser à ceux dans la salle qui, peut-être, j'ai dit des choses ce soir et ça ne correspond pas à ce que vous connaissez. Ce n'est pas votre expérience. Peut-être que vous ne connaissez pas le Dieu vivant dont j'ai parlé ce soir. Peut-être que finalement, vous dites, mais je ne connais pas vraiment ce Jésus. Mais je voudrais le connaître. Je voudrais le rencontrer. Peut-être que vous avez le sentiment, vous réalisez que vous vivez une religion, des connaissances religieuses, mais que une relation, une expérience personnelle avec Jésus, ça, il n'y a pas d'écho en vous, il n'y a pas d'expérience. Et je voudrais vous inviter ce soir à répondre à l'appel de Jésus qui dit « Viens à moi, viens boire mon eau, viens me rencontrer. » Et s'il y en a ce soir qui veulent rencontrer Jésus, vraiment le rencontrer, je voudrais vous inviter à venir devant et à simplement montrer à Dieu que vous voulez rentrer dans une relation avec lui, que vous voulez qu'il vous rencontre, mais que vous vous répondez. Ça, c'est le premier appel que je voudrais faire. Le deuxième appel, c'est si vous êtes chrétien, et puis vous sentez que vous êtes en peine en ce moment, vous êtes en manque de fuel, en manque de vie, il y a quelque chose de tiède, il y a quelque chose d'apesanti, il y a quelque chose dans votre esprit qui est lourd, mais vous voulez répondre à ce que j'ai partagé ce soir. C'est qu'il y a l'appel de la vie. Il y a Dieu qui veut vous donner de l'eau et que vous voulez boire. Et si ça touche vos cœurs, si vraiment vous dites « Oui, je veux boire cette eau, je veux rencontrer Jésus, je veux vivre quelque chose de passionné avec lui, à nouveau. » Je vous invite aussi à venir pour montrer à Dieu que vous avez entendu et que vous répondez à son appel. C'est répondre à Dieu que je vous demande. C'est pas tant, on va prier pour vous, bien sûr, mais c'est répondre à Dieu. Parce qu'il vous veut, vous. Il vous veut, vous. Pas votre compétence, pas ce que vous avez, mais vous, votre cœur. Parce que vous êtes précieux pour lui. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous a créé. Dans un sens, si Dieu s'est mis en position de père, il s'expose aussi. Parce qu'un père a besoin de ses enfants. Il a besoin de ses enfants. Je vous invite à prier avec moi. Père, je suis là devant toi ce soir. Jésus, j'ai entendu ton appel. Et je viens. Je viens à toi. Donne-moi à boire, Jésus. Donne-moi à boire de ton eau. Cette eau de la vie. Donne-moi de te rencontrer. Donne-moi d'entendre ta voix. Prends-moi dans tes bras. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont eu ce désir qui sont là debout devant toi ce soir. Merci pour tous ceux qui, dans leur cœur, répondent à cet appel que tu adresses à toutes les générations, Jésus. Viens et bois. Seigneur, je prie que tu fasses, selon ta promesse, couler des fleuves d'eau vive à travers ces personnes. Des fleuves pour le salut, des fleuves pour la joie, des fleuves de restauration, des fleuves d'amour, des fleuves qui amènent la force, qui amènent la vie. Seigneur, je te prie de réveiller ton peuple. Je te prie de réveiller ton Église. Et je te prie de réveiller ceux qui se sont levés, particulièrement, Seigneur, de leur donner des cœur à cœur, des moments de rencontre intense avec toi, où ils sont arrosés, où le ciel s'ouvre sur leur vie et ils reçoivent cette pluie d'en haut qui ensemence leur cœur, qui fait jaillir et naître les fruits parce que tu es Dieu et que tu l'as promis. Seigneur, amène la vie. Seigneur Jésus, répands ta vie. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi.